Voilà, n'ayant pas de mon côté de scoop, nous pouvons passer directement à notre sujet et lire ou relire le texte de base de notre temps de partage, d'études, de réflexion dans le livre de Daniel au chapitre 6. Où nous lisons dès le verset premier, pour certaines versions, le verset 2 dans d'autres, mais c'est le même texte. Daniel 6, verset 1 à 11, ou 2 à 12 dans certaines versions. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 gouverneurs de province, dirons-nous, pour les satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes, ces gouverneurs, leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni négligence, ni faute, ni erreur. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement, précipitamment auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense, écris le décret afin qu'il soit irrévocable. Selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense, et lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa chambre, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement. Ils trouvèrent Daniel qui priait et suppliait son Dieu. Nous allons écouter une parole de Jésus lui-même dans le premier évangile, Matthieu chapitre 6, dans le cadre de la charte du royaume des cieux, du royaume de Dieu, la constitution, dirions-nous en langage juridique moderne. Matthieu chapitre 6, versets 5 et 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre intérieure, dans ta chambre la plus retirée, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Enfin, dernier court texte qui évoque la vie de prière de Jésus dans le deuxième évangile, Marc chapitre 1er. Marc chapitre 1er, verset 35 à 37. Marc chapitre 1er, verset 35 à 37. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent : tous te cherchent. Notre première soirée était donc essentiellement consacré à une introduction générale pour camper le personnage principal de notre réflexion, le vieillard Daniel, octogénaire, dans son cadre de vie, dans le contexte historique, l'époque, et pour tirer quelques premiers enseignements, simplement dans ce cadre-là. Et nous avons terminé en disant que les versets 10 et 11, ou 11 et 12, étaient riches en indications fondamentales d'ordre pratique. En tout cas, j'en ai vu 6 qui nous intéressent jusqu'à dimanche. Pour notre vie de prière personnelle. Je ne dis pas que nous aurons fait le tour du sujet. C'est un thème, la prière, aussi vaste que Dieu. Mais nous aurons tiré quelques enseignements fondamentaux, essentiels, concernant la vie de prière personnelle dont dépend aussi la qualité de vie et de prière de l'Église locale. Et nous avons donc ici un mot-clé qui indique la première de ces 6 indications fondamentales d'ordre pratique, puisque au chapitre 6 et au verset 10, c'est ainsi que le texte commence. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Le vieillard, Daniel, avait d'une manière particulière un endroit pour prier. Une chambre haute, une chambre supérieure, il y a diverses manières de traduire cette expression, c'est-à-dire généralement une petite construction légère, élevée sur le toit de la maison, pour pouvoir s'y retirer à l'écart. Et aussitôt, quand je vous dis ces choses, se dessine dans ma mémoire un lieu qui m'est resté cher, qui nous est resté cher, puisqu'on a fait certains de ces voyages ensemble ces dernières années, que n'a pas tout à fait connu notre ami Mathieu. Où est-il, Mathieu? Où se cache-t-il? Mathieu, il n'est pas là? Oui, il est là-bas. N'aie pas de crainte. Hein. Je n'ai pas de scoop. Mais sinon, peut-être que notre ami Mathieu vient de rentrer du Sénégal où il a donc passé d'excellents moments en compagnie d'Alain et Ingrid Faber, mais dans leur nouveau domicile. S'il avait eu le privilège d'y venir un peu plus tôt, il y a une bonne année en arrière, il aurait fait connaissance d'un lieu que j'aimais beaucoup, celui où je me retirais tous les matins, précisément comme Daniel, pour rencontrer le Seigneur. À 30 km de Dakar, du centre de Dakar, sur le toit d'une très agréable maison, même si elle était située dans un contexte musulman très difficile à vivre, musulman fondamentaliste, avec tout ce que cela signifiait comme pression de toutes sortes, la petite chambre haute, la petite hutte sur le toit plat de la maison était un endroit fantastique pour rencontrer le Seigneur tranquillement, à l'écart. Il faisait bon aussi le matin. Daniel avait donc un lieu de rendez-vous précis et habituel avec Dieu, à l'écart, loin du bruit, loin de l'agitation. C'était pour lui cette chambre haute, pour quelqu'un d'autre, ça peut être un grenier, ça peut être une cave, ça peut être un abri de jardin, ça peut être un garage, ça peut être une voiture, ça peut être un atelier, ça peut être la nature. Importance d'avoir un lieu. Bien sûr, on ne va pas rester dans ce lieu toute la journée. On a sa vie professionnelle, on a la popote à faire, on a le jardin qui nécessite aussi qu'on s'occupe de lui, on est dans le train, dans sa voiture, mais on doit avoir un lieu de rendez-vous. Parce que Daniel n'est pas le seul dans la Bible à nous donner une telle indication, et que son exemple s'inscrit dans le cadre de tout un enseignement des Écritures sur l'importance de l'endroit. Et j'aimerais l'illustrer pour donner en même temps toutes sortes d'idées, parce que bien entendu, quand on parle d'endroit, il y a parfois un bouclier de récrimination ou d'excuses personnelles qui se lèvent. Mais comment est-ce possible chez moi, où je vis en chambre d'étudiant avec quelqu'un d'autre? Enfin, nous sommes forts pour déployer toutes sortes de projectiles de manière à se barricader derrière notre manque peut-être dans ce domaine. Alors j'ai ici un exemple très intéressant. Il est question d'une pauvre dame qui vivait avec ses nombreux enfants dans une très petite maison. La couture et le repassage qu'elle effectuait pour les autres lui apportaient un maigre revenu, et elle était connue pour sa vie spirituelle très profonde et pour la qualité de son témoignage sur le voisinage. Et le responsable de l'église locale allait souvent lui rendre visite, parce que sa foi, son amour, son rayonnement personnel étaient pour lui une véritable source de bénédiction et d'inspiration. Et un jour il lui dit: « Mes chères sœurs, comment pouvez-vous demeurer si près du Seigneur quand vous n'avez manifestement pas d'endroit pour vous retirer seul avec lui ?» Et voilà que cette dame le regarde toute étonnée, un peu stupéfaite. Elle lui dit: « Mais écoutez, je me retire seul avec lui. Chaque fois que je veux chasser le monde de mon esprit pour communier avec Dieu, je m'assieds et je relève mon grand tablier sur ma tête pour avoir un peu d'intimité. Et c'est ainsi que je m'approche de mon Sauveur. » Donc vous avez peut-être une suggestion de cadeau Pour un prochain anniversaire, choisissez le grand, ample, agréable, pour qu'il soit un merveilleux abri pour le retrait dans la vie de prière personnelle. Je n'aime pas toujours prendre des illustrations issues de personnalités dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, parce que là aussi on dit oui, mais c'était des êtres d'exception, ce qui n'est pas vrai, hein, entre nous soit dit, ça c'est ce que nous inventons. Hudson Taylor, bien connu, fondateur de la mission intérieure de la Chine, qui a eu un très beau ministère, mais qui était un homme qui a vécu des moments très difficiles, de découragement, de dépression, de gros combats, avait aussi ces temps de piété régulière, et quelqu'un écrit à son sujet, « Compte tenu de sa vie bien remplie, il n'était pas facile pour M. Taylor de se réserver un temps de prière et d'étude de la Bible. Mais il savait cependant que c'était vital. » Les auteurs donc du livre en question se souviennent d'un long voyage qu'ils ont effectué avec lui au nord de la Chine, en charrette et en brouette, avec la nuit des arrêts dans les auberges les plus pauvres. Tout le monde partageait la même pièce, porteurs et voyageurs. On tendait un rideau rudimentaire pour séparer leur coin du sien. Puis, lorsque le sommeil avait déjà gagné plusieurs personnes et qu'un calme relatif s'était établi, on pouvait entendre craquer une allumette et apercevoir la lueur d'une bougie qui signalait que M. Taylor, bien que fatigué, épanchait son cœur devant la petite Bible en deux volumes, toujours à portée de main dans ses bagages. Il consacrait généralement à la prière le temps qui s'écoulait entre 2h et 4h du matin. C'était le moment où il était le plus certain de ne pas être dérangé dans sa communion avec Dieu. Voilà une autre petite illustration. Une troisième qui m'a alors beaucoup impressionné, d'autant plus qu'elle est relativement récente dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ de notre époque. Il s'agit d'un récit qui se situe en Chine, et d'un court flash concernant un pasteur chinois qui a passé 18 ans de sa vie en prison pour sa foi. Et c'est en 1991, donc c'est tout récent, qu'il put rendre ce témoignage remarquable. Les autorités m'avaient affecté à la vidange de la fosse d'Aisance, de ce camp de déportation en quelque sorte. Elle n'imagine pas, les autorités, combien j'ai apprécié de travailler là pendant ces années. C'était une fosse de 2 mètres de côté, remplie d'excréments humains, point de suspension. Je devais descendre dans cette masse nauséabonde et écoper, comme on vit d'un bateau qui se remplit, n'est-ce pas, écoper sans arrêt. Pourquoi ai-je pu me réjouir d'accomplir cette corvée? Dans le camp de travail, les prisonniers étaient normalement étroitement surveillés par des gardes. Mais l'odeur du puisard, de l'endroit, maintenait les gardes et les prisonniers à bonne distance. Je travaillais donc seul, ce qui me permettait de prier le Seigneur à haute voix quand j'en avais besoin. Je pouvais réciter des passages entiers de l'Écriture, ainsi que tous les psaumes dont je me souvenais, sans que personne ne puisse protester. Je pouvais chanter à haute voix tous les cantiques qui me revenaient à la mémoire. En chantant dans la fosse d'Aisance, je faisais l'expérience de la proximité du Seigneur. Cette fosse devint mon jardin privé où je rencontrais le Seigneur. De quoi faire fondre toutes les excuses, si facile, hein, aujourd'hui. Nous avons vu l'exemple du lieu à l'écart dans la vie de Jésus. Et il est intéressant de savoir que, alors que Jésus demandera à ceux qui veulent se réclamer de lui de se retirer à l'écart, chacun dans sa chambre, la plus retirée, pour vivre là dans le secret de Dieu, lui ne se retirera pas dans sa chambre généralement. Mais il ira dans des contrées, à l'écart, soit en montagne, soit au bord de la mer, soit à proximité du désert. Tout simplement parce que la Galilée de l'époque était très peuplée et quelqu'un l'écrit, dans chaque maison, 10 à 20 personnes vivaient ensemble dans l'unique chambre habitable. Et ce que Jésus appelle ailleurs justement sa chambre était le cellier ou le grenier où l'on entassait les provisions de blé et d'huile. Et dans la structure des habitations de l'époque, souvent 4 maisons donnaient sur une cour commune. Et comme les gens se levaient à l'aube pour leur travail, ils se rendaient très tôt au cellier pour préparer la nourriture du premier repas. Et si l'on voulait donc trouver un endroit tranquille, il n'y avait pas d'autre solution que de se lever en pleine nuit afin de se rendre sur l'une des collines environnant les villages pour y trouver un lieu solitaire. Même Jésus éprouvait le besoin. Lui, Fils de Dieu, Fils de l'homme, de rencontrer de manière régulière, quotidienne, le Père à l'écart. Ce qui a fait dire à un remarquable commentateur que c'était l'habitude de notre Seigneur de chercher une retraite pour prier. Lorsqu'il se retirait de la présence des hommes, il avait l'habitude de s'en aller loin, à l'intérieur d'une région inhabitée. Il était dans les déserts. La surprise des spectateurs réside dans ce fait qu'un homme si fort, si richement pourvu de puissance spirituelle, ait trouvé nécessaire pour lui-même de se refaire à la source de la puissance afin de pouvoir rafraîchir son esprit lassé. Pour nous, l'émerveillement est encore plus grand quand nous réalisons que lui, le prince de la vie, le Verbe éternel, le Fils unique du Père, puisse se prosterner avec une humble douceur devant le trône de Dieu, demandant avec supplication la grâce d'être aidé en période de besoin. Alors nous avons déjà très tôt, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament et dans l'histoire du peuple juif, une dimension très forte allant dans cette direction. Si nous prenons Exode chapitre 29, par exemple, Exode chapitre 29, nous avons là une dizaine de versets, les versets 38 à 46, donc Exode 29, 38 à 46, plusieurs indications sur lesquelles d'ailleurs nous reviendrons plus loin encore concernant ce qu'on appelle l'holocauste perpétuel, donc un sacrifice dans lequel l'animal était tout entier coupé en morceaux, posé sur l'autel pour être totalement consumé. Holocauste signifiant que l'odeur montait vers le ciel pour être agréable à Dieu. Verset 38, « Voici ce que tu offriras sur l'autel. Deux agneaux âgés d'un an, chaque jour, à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs, c'est-à-dire à la nuit tombante. » Tu offriras avec le premier agneau un dixième d'épha de fleurs de farine, pétri dans un quart de hin d'huile d'olive, concassée, une libation d'un quart de hin de vin. Tu offriras le second agneau, donc à la nuit tombante, avec une offrande, une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation. Ou encore mieux traduit, parce qu'assignation, c'est un terme qui est rarement utilisé dans le langage commun, qui appartient au langage juridique, mais on l'utilise sinon très peu, à l'entrée de la tente de la rencontre, de la tente du rendez-vous, pourrions-nous traduire, devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai, dit l'Éternel. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Et c'est très important ce mot « rencontre ». Appelé donc tente d'assignation parce que la racine du mot hébreu utilisé ici indique que c'est un lieu qui est déterminé à l'avance, assigné, c'est-à-dire un point fixé à l'avance en vue d'une rencontre, soit dans l'espace, soit dans le temps. Et vous avez près de 150 mentions de la tente de la rencontre dans l'Ancien Testament. Cela veut dire donc que ce sens du lieu de rendez-vous déterminé à l'avance, assigné, est important au regard de Dieu. Avoir une tente de rendez-vous pour rencontrer Dieu jour après jour. Alors là, la première question qui se pose à nous de manière intime dans le secret de nos individualités, de nos cœurs, est celle-ci. Est-ce que nous avons vraiment, si nous nous réclamons de Jésus-Christ, si nous le connaissons comme Seigneur, avons-nous ce lieu de rendez-vous dans notre relation personnelle avec lui? Et pour nous qui voyageons beaucoup, eh bien c'est une des premières préoccupations quand nous arrivons dans un nouveau lieu, où que ce soit, tout de suite, où vais-je planter la tente de la rencontre? Où vais-je pouvoir me retirer pour pouvoir me réjouir d'une manière toute spéciale de vivre des moments dans l'intimité de Dieu, pour fermer ma porte d'une manière ou d'une autre et le rencontrer dans le secret. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Le week-end dernier, nous avions une série d'enseignements bibliques dans une église évangélique à Orly. La série précédente, qui avait lieu en 1996, avait été intéressante, assez particulière. C'était la première fois qu'un tel événement m'arrivait le samedi soir, après la réunion. J'ai salué les uns et les autres, nous avons passé un bon moment ensemble, nous nous connaissions déjà depuis des années. Et puis j'ai vu la salle dans laquelle nous étions se vider peu à peu. Et puis je me demandais qui allait me loger. Puis j'ai attendu, et puis finalement, quand la salle a été
quasi vide. Le responsable de l'église est venu livide vers moi en me disant, écoutez, nous avons eu un problème. Il y a des communications qui ne se sont pas faites. Et il nous faut chercher un hôtel. Alors vous imaginez, le samedi soir à 11h, à la recherche dans la région d'Orly d'un hôtel Formule 1. Ah, c'était intéressant. C'était la première fois que j'allais dans un Formule 1. Je pense que Dieu voulait que j'y aille. Parce que c'était délicieux. Bon, j'ai mal dormi la nuit, ça c'est autre chose. Mais ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est lorsque je suis entré dans les toilettes. Parce que j'ai aussitôt sorti mon petit carnet dans lequel je note toutes les anecdotes possibles qui me servent ensuite dans l'enseignement. Alors faites attention, parce que je pourrais relever des choses. Et quand j'étais là à l'intérieur des toilettes, j'ai lu devant mon nez, sur la porte d'entrée, mais à l'intérieur, hein, en entrant dans la pièce, n'oubliez pas de condamner la porte avec le verrou. Vous éviterez ainsi tout risque de déclenchement du système d'arrosage et d'extinction de la lumière. J'ai trouvé ça délicieux. Je me suis empressé de vérifier que j'avais bien mis le verrou. Il faut éviter le déclenchement d'un arrosage prématuré. C'est tout un enseignement, ça. Hein, ben, y a ceux qui s'arrangent pour que la bénédiction vienne prématurément. Hein, l'arrosage. Dieu dit, bon, mais t'as ton arrosage maintenant, mais tu ne l'auras pas plus tard. Il nous l'a voulu, hein. Ta bénédiction, ta récompense, tu l'as maintenant. Tout le monde sait que tu as une vie de prière personnelle, hein, tu le fais de manière suffisamment visible de tous pour que tu aies une récompense ici sur la terre. Tu es arrosé, mais tu n'auras pas ma bénédiction. Et en plus, la lumière s'éteint. Alors que généralement, vous le savez, c'est le contraire. Je pourrais passer la soirée à vous raconter quelques expériences aussi très amusantes de ces lieux où je me suis retrouvé plongé dans l'obscurité, où j'avais vraiment besoin de lumière. Vous avez, oh, vous le savez, les cabines téléphoniques où vous entrez, vous avez un magnifique plafonnier, et puis vous dites, c'est pas possible, mais quand même, un plafonnier si joli et pas de lumière. Alors on veut chercher des numéros, pas moyen de les trouver, et on peste en disant, mais quand même, il n'aurait pas pu changer l'ampoule. En réalité, il suffisait de fermer la porte. Vous avez des ascenseurs qui fonctionnent de cette manière. Je pense à quelqu'un, un jour, qui monte très très chargé, je ne sais pas à quel étage, il emprunte donc l'ascenseur, il était chez lui. Et très chargé, il entre dans l'ascenseur, il appuie sur le bouton, l'ascenseur ne bouge pas. Alors il essaye encore, et puis il se résigne à monter à pied. Et puis, à peine avait-il franchi quelques marches, qu'il voit en face de lui quelqu'un de l'immeuble qui descend. Et auquel il dit, oh monsieur, n'entrez pas dans l'ascenseur, il est en panne une fois de plus. Comment il est en panne? Mais je viens de l'utiliser, ce n'est pas possible. Alors le monsieur descend et lui dit, écoutez, venez avec moi, on va réessayer. Alors il entre dans l'ascenseur, il appuie sur le bouton, l'ascenseur monte. Et l'autre était tout bête. J'ai dit, mais vous savez, dans ces ascenseurs, il y a deux paliers. Et il faut faire attention que les deux portes soient bien fermées. Sinon, on ne monte pas. Je me souviens d'une conférence à Paris, d'une convention annuelle d'union d'église, où j'ai connu le plus petit cabinet toilette de toute mon existence. Il était situé sur l'estrade. J'ai voulu y pénétrer, j'ai eu de la peine à y entrer, hein, c'était calculé au plus juste. Et j'ai réussi à fermer la porte. Pas d'interrupteur.
Alors j'ai entrouvert, j'ai cherché à l'extérieur, pas d'interrupteur. J'étais quand même un peu embarrassé, mais enfin, la réunion allait reprendre. Alors, j'ai refermé, et puis en tâtonnant, j'ai senti un verrou, j'ai tourné le verrou, la lumière s'est allumée. Même pour l'interrupteur, il n'y avait pas de place. Mais tout cela, n'est-ce pas, ce sont des images de la vie. Il y a des portes qu'il faut fermer pour que la lumière s'allume. Et pour que nous évitions des pseudo-bénédictions, de ces bénédictions anticipées, mais qui en réalité sont éphémères. Il y a des domaines où nous devons apprendre à cultiver le secret. Sainement. Parce que nous sommes, vous le savez, de fiefs orgueilleux. Et nous sommes prompts à nous emparer de la gloire de Dieu dans nos vies à chacun. Alors, il y a tant et tant d'autres exemples dans les Écritures. Vous avez le Gilgal de Josué, le Carmel d'Élie, le Sunem d'Élisée, etc. On voit que ces hommes et ces femmes de Dieu dans les Écritures avait un lieu pour y rencontrer le Seigneur. Pourquoi une telle importance? Ne fût-ce que pour pouvoir prier librement, de manière audible, c'est-à-dire éviter cette prière cérébrale qui peut être la nôtre tout au long de la journée, lorsque nous sommes au milieu de la foule, lorsque nous sommes dans le train, etc., n'est-ce pas, où intérieurement nous nous adressons continuellement au Seigneur pour ceci, pour cela, n'est-ce pas. Mais nous avons besoin de ces moments où nous pouvons vraiment exprimer, articuler, même faiblement. Pas nécessaire de le faire pour réveiller celui qui dort dans la chambre d'à côté, parce que là c'est raté, n'est-ce pas. Le secret n'existe plus. Mais nous avons besoin d'articuler notre prière. Notre cerveau doit participer d'une certaine manière, beaucoup plus forte que nous le faisons dans notre monde moderne, à notre piété. Et j'aime le dire, autant pour la prière que pour la lecture de la Bible. Vous savez que, je l'ai dit ici, il y a bien des années, il ne serait jamais venu à l'idée d'un juif pieux de faire les choses dans le domaine spirituel de manière simplement cérébrale. La méditation des Écritures dans la Bible, dans le langage du peuple juif, c'est le murmure des Écritures. Dans le psaume premier, ce portail d'entrée des psaumes, un psaume extrêmement riche en indications de cet ordre, il est donc question d'être heureux ou d'être en marche, il y a un sens de mouvement, c'est très fort. Heureux donc, en marche aussi, celui qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu et qui la murmure littéralement, jour et nuit. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. D'apprendre à la fois à exprimer, au moins à mi-voix, notre lecture des Écritures, tout comme notre prière. Les ennemis de Daniel, là, l'entendaient, hein, même s'ils devaient y porter voix, mais ils savaient qu'il se passait des choses entre lui et son Dieu. C'est important aussi à l'heure où l'on est tenté de passer tellement de temps devant l'ordinateur, la télévision, surtout la télévision, qui engendre une passivité impressionnante, de grosses difficultés après, pour faire fonctionner certaines dimensions de notre cerveau convenablement. Il m'est souvent arrivé de raconter
Cette petite anecdote, étant invité à l'Institut biblique de Nogent pour une retraite de rentrée des étudiants, l'un d'entre eux vient me voir à l'issue d'une des études et pour me dire, manifestement dans un état de malaise personnel profond, écoutez, je suis un élève qui entre en troisième année et je suis angoissé parce que je rencontre le Seigneur chaque matin, je lis les Écritures, je prie, et je ne retiens absolument rien. Et cela m'inquiète beaucoup, donc il m'a expliqué sa situation, puis simplement, je pense que là, Dieu a vraiment guidé de manière très, très juste dans sa grâce. Je lui dis, mais écoutez, vous rentrez de vacances.
Oui.
Quelle place la télévision a-t-elle occupée dans votre vie durant l'été? Et j'ai cru qu'il était foudroyé sur place. Et il m'a alors avoué que c'était son problème. Il avait vraiment fait une cure de télévision. Je lui ai dit, eh bien écoutez, ne cherchez pas plus loin. Il y a des choses qui ne vont plus comme il faut là, dans la tête. Hein. Vous n'avez plus du tout l'habitude de méditer, de réfléchir, il y a une sorte d'engourdissement intérieur. D'où la nécessité, pour vous, dans votre état, d'accepter l'ordonnance que je vais vous donner. Et dans cette ordonnance, il y avait en tout cas deux points importants. Le premier, c'était de non seulement de lire les Écritures à haute voix pour obliger à nouveau certains mécanismes à bien fonctionner dans sa tête. Le deuxième était bien entendu de prier de la même manière. Et puis le troisième était de d'écrire les Écritures chaque matin pour obliger un travail est utilisé, il est quasi l'équivalent de notre cerveau. Siège de la pensée, de l'intelligence, de la mentalité, du raisonnement, des nécessités de choix, avec une place affective évidente, mais qui n'est pas aussi centrale que dans ce que nous appelons le cœur, qui a ses raisons que la raison ne connaît pas, n'est-ce pas ? Non, c'était vraiment l'épicentre de la personne. Le quartier général de l'individu, c'est le cerveau. Et nous vivons dans un monde moderne où nous ne nous rendons pas compte, au-delà de toute l'intoxication, d'immoralité, de violence, etc., dont nous nous repaissons dans l'Église de Jésus-Christ. Je viens de traiter ce thème dans deux églises. Et qui sait si c'est un drame maintenant, dans nos églises. La place de la télévision et l'absence de discernement qui fait que nous offrons même à nos enfants de ces programmes immondes, immondes, et je viens d'en avoir une preuve, même au niveau pastoral. Et c'est grave. Mais au-delà de cet aspect, nous ne nous rendons pas compte que c'est un des plus grands ennemis d'une sérieuse méditation et étude personnelle des Écritures dans la présence de Dieu. Essayez, après avoir regardé la télévision pendant 2 ou 3 heures, ensuite de méditer les Écritures et de prier. Vous allez voir ce que ça donne. C'est éloquent. C'est éloquent. Donc, souvenons-nous que l'importance de l'endroit, c'est de favoriser, déjà, simplement, cette manière d'être actif, d'engager sa personne, concrètement, dans une relation vivante avec Dieu. Vous êtes peut-être déjà allé dans une synagogue, ou dans la seule grande synagogue au monde à ciel ouvert à Jérusalem, et vous avez vu ce que ça donne. Hein. Dans cette piété juive, c'est toute la personne qui bouge. Ce n'est pas une invitation à faire n'importe quoi dans nos églises, mais c'est une invitation à réfléchir à la manière dont nous pouvons nous engager concrètement dans notre piété personnelle, dans notre relation avec Dieu. Pourquoi ? Parce que Martin Luther l'a dit si bien, quand je m'agenouille pour prier, Satan s'agenouille à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Et je pense à une personne qui, après que j'ai cité simplement Luther, est venue vers moi à la fin de l'étude en me disant « Mais c'est la première fois que je réalise dans ma vie que quand je prie, le diable s'agenouille à mes côtés. » Jusqu'ici, je pensais que dans la mesure où la prière était un acte spirituel, où je m'adressais à Dieu, j'étais en quelque sorte enfermé dans une bulle, à l'abri par le fait simplement de prier. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand on sait combien des hommes et des femmes qui priaient, et priaient, et priaient encore, se sont dévoyés sur des chemins d'infidélité de toutes sortes, n'est-ce pas ? La prière en elle-même n'a absolument aucune vertu. Et c'est aussi bien la motivation que, comme nous allons le voir, le fondement biblique et la nourriture de la prière qui sont d'une importance absolument capitale. Donc quand je m'agenouille pour prier, Satan s'agenouille à mes côtés. Avoir la victoire sur le vagabondage des pensées, vous ne croyez pas que c'est important ? Surtout qu'alors là, c'est classique, hein ? Vous commencez à prier et hop, les pensées s'envolent. Surtout aujourd'hui, hein, nous avons beaucoup de peine dans le domaine de la gestion des pensées. C'est une des faillites dans nos pays du christianisme authentique. La faiblesse du monde de la pensée. Nous n'avons aucun livre en langue française dans le domaine évangélique qui soit entièrement consacré à une analyse de la pensée. Vous savez, ici et là, dans un certain nombre d'ouvrages, un ou deux chapitres y sont consacrés, et c'est un thème essentiel des Écritures. Apprendre la maîtrise de nos pensées. Apprendre à quitter des ornières dans le domaine de nos pensées. Nous vivons tous avec des ornières dangereuses dans nos pensées qui vont s'approfondissant au fil du temps si nous ne faisons pas attention. Vous avez des ornières de rancune. Vous avez des ornières d'impureté. Et plus le temps passe, plus ces ornières vont s'approfondissant, des sillons qui drainent finalement l'ensemble de nos pensées et qui, bien entendu, ensuite génèrent des comportements qui sont le reflet de la dominante de nos pensées, n'est-ce pas ? Et on va retrouver ce même problème dans le domaine de la prière. C'est souvent dans la prière qu'on peut prendre la mesure de notre capacité de discipliner nos pensées. Vous pouvez savoir si vous avez appris avec le Seigneur, par le Saint-Esprit, mais aussi Dieu travaille avec nous, il collabore avec nous. Hein. Nous sommes les objets permanents de sa grâce, tout est grâce, mais paradoxalement, le Seigneur travaille avec nous. Ça veut dire que nous avons, avec la grâce de Dieu, cet effort porté par la grâce à faire pour qu'il y ait discipline de nos pensées. Donc, importance pour cela, pour éviter le vagabondage des pensées, les interférences. Vous savez que quand vous commencez à prier, le téléphone sonne un sale coup, ou bien l'enfant qui était si sage les matins où peut-être on n'a pas été aussi fidèle, hein, ce matin-là, curieusement, quand on commence à vouloir méditer, il y a l'enfant qui frappe à la porte. C'est curieux, hein ? Ah, l'ennemi fait tout. Victoire sur la somnolence. C'est fou ce qu'on se sent fatigué quand on commence à prier. Même après une bonne sieste. Et c'est pour cela que je dis que cela appartient à la lutte dans le monde invisible. Si l'ennemi peut en quelque sorte faire souffler une sorte d'esprit d'apesantissement, de fatigue, il le fera. Parce que lui va jouer, il va essayer de jouer sur ce plan-là avec nos personnes, n'est-ce pas ? en particulier avec tout ce monde de nos émotions, de nos sensations. Il va essayer. Et il y a des moments où nous nous rendons compte que la prière est un véritable combat où il faut se redresser et dire « Ben non, ça je ne l'accepte pas. » Cette fatigue n'est pas une fatigue normale. Et je la refuse parce qu'elle vient de la puissance des ténèbres. Et c'est extraordinaire de voir comment la fatigue va s'enfuir. L'ennemi cesse de pouvoir faire pression à quelque part sur nos vies parce qu'on a refusé de collaborer avec lui. L'ennemi aime que nous collaborions avec lui, n'est-ce pas? Et il y a des moments où, de manière très claire, dans ce domaine, comme dans bien d'autres, mais ici parlons spécifiquement de ce domaine, il faut lui résister. Il dira, non, ça je ne veux pas l'accepter. Et là, maintenant, tu as été vaincu à la croix, bien retourne là où tu as été vaincu. Maintenant, je veux continuer. Et le Seigneur, alors, c'est aussi honorer nos prises de position. Et puis, dans la possibilité de pouvoir prier librement et de manière audible, on apprend aussi à formuler ses requêtes. C'est comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises depuis hier soir, comment j'apprends à formuler mes requêtes et à exprimer ma prière en public ? C'est dans ce laboratoire secret, dans ce lieu de rendez-vous, dans l'attente de la rencontre, où dans mon langage, très simplement, mais je dois apprendre simplement à dire au Seigneur et à apprendre à dire avec transparence, avec simplicité, mais aussi avec exactitude, ce que je ressens, ce que j'ai besoin, ce que j'envisage, à lui poser des questions, etc. Cela va me préparer aussi à prier en commun avec d'autres. Faut-il dire qu'elle est un témoignage fortifiant devant les puissances invisibles, le fait simplement de prier de manière audible, compréhensible, d'être engagé dans la prière, nous fortifie dans nos prises de position en face de la puissance des ténèbres. Et puis un dernier aspect qui n'est pas sans importance, le fait d'avoir ce lieu de rencontre intime avec le Seigneur nous permet d'avoir des yeux reposés et adaptés à la contemplation de Dieu. Non pas une contemplation directement oculaire, mais dans les Écritures, d'ailleurs c'est une particularité aussi de la pensée juive, mais qu'on retrouve dans les Écritures, on contemple avec les oreilles. Les oreilles, l'écoute qui occupe une énorme place dans les Écritures, l'écoute, ce sont en réalité les yeux du croyant qui pénètrent dans l'invisible de Dieu. C'est un très très beau thème dans la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que la prière n'est pas un monologue, mais un dialogue dans lequel l'écoute attentive occupe une place très importante. Alors ça, c'est quelque chose que nous allons décortiquer, développer plus loin dans un des autres points. Quand il a plu à Dieu de commencer à déchirer le voile au-delà de l'intellect, mais dans le tréfonds de ma personne, sur cette dimension-là de la prière, ça a révolutionné mon approche personnelle de la prière. Toute cette dimension d'une authentique écoute de Dieu qui occupe tant de place dans la prière, selon le cœur de Dieu. J'ai là, sous les yeux, un texte qui résume remarquablement ce que je vous ai dit. C'est Oswald Smith, donc, qui a été pasteur à Chicago et qui a fait un travail aussi d'évangélisation remarquable, dont nous avons deux livres, en tout cas, traduits en français, dont La Passion des âmes, qui est alors un des best-sellers dans ce domaine. Et Oswald Smith, après plus de 40 ans de vie chrétienne, a écrit ceci: depuis plus de 40 ans, je veille le matin. Je commence par l'étude de la parole de Dieu. Ensuite, je prie selon le psaume 5, verset 4. « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. Tout comme la manne fut recueillie au temps de Moïse, je désire lire la Bible chaque jour. Dieu nous parle lorsque nous lisons sa parole. Quand nous prions et parlons avec lui, nous entretenons une chaleureuse et étroite communion avec notre divin Sauveur. J'ai découvert trois ennemis de la vie de prière. Premièrement, les interruptions. J'ai constaté que je devais avoir une heure et un lieu pour ma prière. Mon moment est le matin. Ma place pour la prière est mon cabinet de travail quand je suis à la maison. Deuxièmement, les pensées vagabondes. Habituellement, toutes sortes de pensées, plans et programmes me venaient à l'esprit alors que je priais. Je m'apercevais que je pensais à autre chose. Comment puis-je me débarrasser de ces pensées vagabondes? En priant à haute voix. Je l'ai fait pendant les dernières 40 années de ma vie. Troisièmement, la somnolence. En règle générale, je commençais à me sentir fatigué quand je voulais prier. Il en était ainsi parce que je m'agenouillais, fermais mes yeux et appuyais ma tête sur mon bras. Et oui. Il y a quelques années, j'ai pris l'habitude de prier en marchant. J'ai parcouru des centaines de kilomètres dans mon cabinet de travail. Quand je marche de long en large dans ma pièce, je n'ai jamais sommeil. Je peux me tenir éveillé. 10 minutes me paraissaient être un long moment lorsque je m'agenouillais et priais en silence. Mais quand je prie à haute voix et marche, le temps passe vite. Avec cette méthode, je pourrais passer des heures en prière. J'ai découvert que la veille du matin est ma force et mon soutien. Je parlais de l'importance d'avoir des yeux reposés pour contempler Dieu. Et je pense ici à l'expérience vécue par l'ami d'un artiste peintre qui avait une certaine réputation. Et ami qui fut convié par ce peintre à venir voir une peinture qu'il venait d'achever. Alors cet ami arrive à l'heure fixée, il est introduit par quelqu'un qui est de la maison mais qui n'est pas le peintre. Et cette personne qui l'introduit l'installe dans une chambre totalement obscure, sans lui donner la moindre explication. Il l'installe là-dedans, il quitte la pièce, et notre homme se retrouve là, planté dans la pièce, dans l'obscurité la plus totale. Et ça a duré un quart d'heure. Et alors que l'indignation commençait à poindre dans l'esprit de cet ami qui trouvait que ce n'était pas là un traitement très élégant, la porte s'ouvre et avec un grand sourire, le peintre lui dit « Eh bien voilà, maintenant tu peux rentrer, je vais te montrer la peinture. » Alors il enlève le voile qui la couvrait et l'ami l'observe et trouve la peinture absolument remarquable. L'ami du peintre n'osait pas trop revenir sur ce qui s'était passé dans la pièce à l'arrivée. Mais l'artiste, lui, avant de se séparer, lui dit « Mais je suppose que vous avez dû trouver étrange d'avoir été si longtemps seul dans cette chambre obscure. » « Ah oui, en effet. » « Eh bien voilà l'explication. Je savais que si vous pénétriez dans mon atelier avec l'éclat de la rue dans vos yeux, vous ne pourriez apprécier le fin coloris du tableau. C'est pourquoi je vous ai laissé dans l'obscurité, attendant que vos yeux soient reposés. » Nous avons besoin de Dieu reposé pour apprendre à contempler Dieu. Et en fait, ce temps d'intimité, de rencontre, de rendez-vous dans le lieu qui nous est assigné, que nous avons choisi avec le Seigneur en quelque sorte. Ce temps est là pour que nous puissions à quelque part commencer par faire antichambre, comme Moïse a fait antichambre sur le Sinaï pendant une semaine
avant de pouvoir pénétrer plus haut dans la présence de l'Éternel qui avait tant de choses à lui communiquer. Une semaine d'antichambre pour pouvoir être capable de contempler Dieu avec ses oreilles, tout en vivant dans ce chambardement terrible, n'est-ce pas, climatique, avec l'orage, les éclairs, le tonnerre et tout le reste sur la montagne du Sinaï. Alors bien sûr, faut-il le dire, ceci ne nous empêchera pas de prier spontanément tout au long de la journée, hein, en voiture, dans sa cuisine et ailleurs. Nous avons un exemple type dans les Écritures, c'est Néhémie, avec cette spontanéité de la prière, message SOS, ces flèches qu'il envoie dans la présence de Dieu tout au long de sa vie, dans des circonstances parfois difficiles, et qui montre que Néhémie était d'une manière toute particulière un homme dont la prière était la respiration de l'âme, qui tout au long de ses activités, d'heure en heure, faisait monter vers Dieu ses courts messages, attendant les interventions de Dieu tout au long de sa vie. J'ai retenu ici cette petite anecdote d'un groupe de catéchisme pour adultes qui discutait sur la prière spontanée quand un homme de ce groupe fit remarquer ceci: « J'ai mes meilleurs moments de prière lorsque je suis au volant. » Et du fond de la salle, d'une voix calme, son épouse acquiesça: « Moi aussi, je fais mes meilleures prières quand tu es au volant. » Nous avons dans notre littérature évangélique de langue française la traduction d'une biographie missionnaire que je recommande partout où je passe, Fleuve de lumière, d'Aileen Crossman, qui est de la famille de James Fraser. Ce missionnaire qui a eu un ministère tout à fait particulier, de 1908 exactement à 1938. Il est né en 1896 et il est parti auprès du Seigneur donc à l'âge de 52 ans, après un beau ministère extrêmement difficile dans les montagnes d'une région de la Chine, aux confins de la Chine et de la Birmanie. Parmi les Lissu, une tribu très très importante et qui avait un culte des démons très particulier. Et c'est un homme qui a fait un échange de courriers très dense et très précis aussi avec sa mère, qui en Angleterre avait constitué à sa demande des groupes de prière pour soutenir le combat spirituel de James dans son ministère. Et donc beaucoup d'extraits de ces lettres, qui étaient vraiment des lettres à cœur ouvert, dans lesquelles James Fraser aimait vraiment exprimer tout son combat sans en cacher tel ou tel aspect, parlant de ces temps de profond découragement, même d'une époque où il a eu des envies suicidaires, tellement l'œuvre était attaquée, il se sentait désespéré. Et c'est ainsi que cet homme de Dieu a appris à prier. Il avait d'ailleurs une formation de mathématicien de haut niveau. C'était aussi un musicien hors pair qui a vraiment tout mis sur l'autel pour se consacrer au service missionnaire. Et finalement, Dieu, dans sa grâce, a accompli une grande œuvre par cet homme qui, à un moment donné de sa vie, a pu dire ceci: « Autrefois, je pensais que la prière devait prendre la première place et l'enseignement la seconde. Maintenant, je suis d'avis que la prière doit recevoir la première, la deuxième et la troisième place, et l'enseignement la quatrième. » Et dans son livre, vous pourrez lire ceci, faisant allusion au texte « Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, etc. », il dit « Il me semble que même quand je prie seul, nous sommes deux à être impliqués dans cette prière, Dieu et moi. » Je crois qu'une demande qui ne correspond pas à l'intention de Dieu ne sera jamais exaucée, qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc, hein, 1 Jean 5, 14 ne sera jamais exaucée. Personnellement, j'ai besoin de m'en remettre à lui pour qu'il me guide dans la prière comme dans les autres domaines. Je trouve qu'il est bon de faire précéder la prière non seulement d'une méditation, mais encore de la demande explicite d'être conduit dans les directions de prière où le Saint-Esprit m'invite. Je trouve utile aussi de faire une petite liste, comme les notes qu'on prépare pour un message, avant chaque période de prière. L'intelligence a besoin d'être guidée autant que l'esprit a besoin d'être accordé. Cela me permet de mettre mes idées en ordre, et une fois que j'ai préparé ma prière, je peux poser mes notes sur la table, sur une chaise devant moi, m'agenouiller et passer à l'action. Avoir un carnet de prière, je n'ai pas dit un moulin à prière, hein, mais un carnet de prière. Est-ce que vous avez peut-être simplement un carnet répertoire de prière? C'est tellement pratique. Hein, vous mettez dans les A le nom des personnes dont le nom commence par A, ou des églises, ou des œuvres, et puis en B, vous continuez à remplir ainsi peu à peu votre carnet, et ensuite, de jour en jour et de semaine en semaine, vous passez tout votre carnet répertoire de A à Z pour porter de manière régulière, de manière cyclique, les églises et les personnes que Dieu met sur votre cœur au Seigneur. Et puis dedans, pour ne pas vous tromper de pages, de répertoire, donc de lettres de l'alphabet, vous glissez un petit bristol et sur ce bristol, vous indiquez les sujets de prière du moment. Ceux qui sont au cœur de votre combat dans la prière. Le coup de téléphone que vous avez reçu, qui vous a mis à genoux, la situation de crise dans l'église locale, la décision grave à prendre dans les jours qui viennent, etc. Ça, c'est le signe qu'on glisse à l'intérieur. On va commencer par là, et puis ensuite, on va prendre du temps pour parcourir son carnet répertoire. Des choses très simples, mais qui deviennent des outils très, très précieux pour la prière et l'intercession. Altekendorf se trouve dans mon carnet de prière qui est dans mon sac à la lettre A. Il est là. Et il y a quelques noms de personnes spécialement de l'église d'Altekendorf qui sont entre parenthèses, aussi parce que je n'ai pas une mémoire des noms, donc c'est quand même une aide quand on peut, au moment où l'on prie, articuler les noms des personnes et ne pas avoir une prière qui soit ce qu'on pourrait appeler une prière lèche-vitrine, hein, où on se contente de vagues généralités. Ça fait bien de dire « Seigneur, je te prie pour le monde entier ». Le problème, c'est que ça ne veut rien dire. Nous devons apprendre à être précis dans notre vie de prière. Et je pense ici à cette église dans laquelle un participant très conscient de ses faiblesses, de ses limitations, avait l'habitude de dire dans ses prières, même en public, « Seigneur, enlève de ma vie les toiles d'araignée ». Et tout le monde savait que quand il allait prier, il serait tenté de dire, on l'entendait assez souvent, « Oh Seigneur, enlève de ma vie les toiles d'araignée ». Ça avait l'art d'agacer plus spécialement quelqu'un dans cette église locale qui un jour, n'y tenant plus, a pris la parole après lui et a prié « Seigneur, je te prie de tuer cette araignée qui cause tant de dégâts ». Soyons précis. Soyons précis dans notre vie de prière. Dieu l'aime. Bon, c'est vrai qu'il y a des domaines dans lesquels nous ne pouvons pas être précis parce que, hein, il est question de, dans Romains 8, de ces trois soupirs. Hein, celui de la création, celui de la nouvelle création du croyant, puis le soupir du Saint-Esprit. Et il y a des domaines où nous sommes dans de telles situations parfois que nous ne savons plus comment articuler des mots, comment exprimer quelque chose. parce que les situations sont tellement énigmatiques, parce que aussi parfois nous sentons toute notre limitation par l'usage du vocabulaire, n'est-ce pas? Mais autant que faire se peut, il y a tant et tant de domaines dans lesquels nous pouvons envoyer vers le ciel des flèches bien précises vers le mille de la cible de Dieu. Je pense ici à cet humble cordonnier qui a été le pionnier des missions modernes, William Carey, n'est-ce pas, 1761-1834, cordonnier dans son village, qui avait pas mal de problèmes même pour nourrir sa famille, mais qui d'une part étudiait les langues, qui cherchait à se renseigner sur l'état du monde païen, et dans sa petite échoppe de cordonnier, il avait donc fabriqué une grande carte géographique avec des morceaux de papier collés ensemble. Chaque pays de la terre y était représenté et il y écrivait tout ce qu'il savait sur ses conditions respectives, tout en essayant en priant de ne pas se taper sur les doigts. Il priait en regardant sa carte. Il portait ses pays dans son cœur. Et c'est ainsi que Dieu l'a appelé, malgré toute l'incrédulité orgueilleuse des pasteurs du groupement d'église auquel il appartenait, il a décidé finalement de s'engager courageusement. Le travail a été très difficile pendant les 7 ou 8 premières années. Il a connu aussi d'autres revers, un incendie extrêmement grave, etc. Mais Dieu s'est servi de lui pour en faire le grand pionnier des missions modernes. Un humble cordonnier dans un registre paroissial d'Angleterre figurait cette indication par le pasteur et baptisé aujourd'hui un pauvre cordonnier. Et mes amis, combien nous bénissons Dieu pour ce pauvre cordonnier. Alors en terminant, cette question de l'endroit, j'aimerais peut-être demander à mon épouse de collaborer. Tu veux bien? Pour être pratique, la fameuse prière de la main. On va demander à mon épouse de simplement expliquer la prière de la main, et c'est utilisable aussi dans l'endroit, n'est-ce pas?
Nous avons tous une et deux mains, hein, quelqu'un de normal. Et quand nous avons l'enseignement avec les enfants, je fais venir souvent 5 enfants devant et je demande à chacun de choisir un doigt de sa main. Et alors, je leur dis, écoutez, vous pouvez prier pour les doigts de votre main. Alors, le pouce, pour qui est-ce que vous pouvez prier? Alors, le pouce, il indique notre direction. Donc, tu peux prier pour tes parents, ta famille, tes amis. Et alors là, tu peux vraiment penser à beaucoup de personnes. Avec seulement le pouce, tu peux déjà faire un grand tour de prière. Ensuite, il y a l'index. Et que fait l'index? Il gronde, souvent. On n'aime pas les personnes qui nous grondent. Hein? Et à l'école... Et puis, il y a nos ennemis. Et pourtant, la Bible dit de prier pour nos ennemis. Alors, cherchons un petit peu. Alors, on peut demander pour qu'ils nous grondent, mais de façon juste. Hein? C'est quand même plus agréable d'être grondé et de ne pas être grondé injustement. Ensuite, le troisième doigt, c'est le majeur. Et le majeur, en général, il est le plus grand de la main. Et qu'est-ce qui est pour toi le plus grand? C'est en général notre pays, le monde. Et là, il y a vraiment un programme de prière actuellement, hein, pour notre pays, ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent, vraiment que Dieu leur donne toute sagesse. Ensuite, si vous prenez votre main et que vous essayez de lever ce petit doigt, il a du mal souvent à se lever tout seul. Et qui a du mal? Les autres bougent forcément. Hein? Il y en a, les enfants s'amusent à faire cet exercice. Les malades. Et il y en a hein, dans notre entourage. On peut penser à certains malades et prier pour les malades. Et ce petit doigt, c'est moi. Donc, priez pour moi, pour que le Seigneur me donne toute sagesse et tout discernement en toutes choses.
La prière de la main, toute pratique. Et pendant que j'écoutais mon épouse, j'ai pris la décision de vous parler d'une main. Ce sera la conclusion de l'étude de ce soir. Nous passerons à la deuxième dimension demain soir. Je vais vous l'annoncer comme je l'ai fait pour la première. Mais c'est un événement qui est récent. Certains d'entre vous l'ont peut-être lu dans une revue évangélique. Mais il m'a impressionné. Il commence le récit par une suggestion. Debout, la main étendue, faites lentement un tour complet sur vous-même en priant pour tout ce que vous voyez entre vos doigts. C'est la méthode qu'employait un paysan à demi illettré d'une région de Chine, Monsieur Lo. Chaque soir, il montait sur la digue de terre qui bordait son champ. Sa houe sur l'épaule, il étendait un bras devant lui, écartait les doigts et se mettait à tourner. C'était un spectacle peu banal que cet homme nu-pied, vêtu d'un pantalon brun remonté jusqu'aux genoux et d'une chemise beige sale, en train de pivoter lentement sur lui-même tout en gardant son bras rigidement tendu devant lui. Ses voisins pensèrent d'abord qu'il se livrait à quelque exercice, on va dire, spirituel oriental, mais un groupe de jeunes garçons se mirent à l'observer discrètement chaque soir d'un peu plus près. Et remarquèrent qu'il priait à haute voix pour tout ce qu'il apercevait entre ses doigts. Il voyait le champ du voisin et disait « Seigneur, bénis mon voisin et donne-lui une bonne récolte. » Il avisait le buffle d'un ami et disait « Seigneur, garde cette bête en bonne santé. Tu sais comme elle est importante pour mon habit. » Il distinguait au loin les nuages de poussière qui surgissaient dans la carrière et disait « Seigneur, protège ceux qui travaillent là-bas avec toute cette dynamite, que chaque pierre sortie de ta terre serve à donner abri et logement. » Il tournait encore un peu, se trouvait face aux vitres cassées de la verrerie. « Seigneur, protège toutes les ouvrières de l'usine, fais qu'elles te découvrent tout en travaillant. » Tout ce qu'il voyait dans la direction de sa main était l'objet d'une prière, qu'il s'agisse des occupants d'une maison, du propriétaire d'un champ ou d'un animal, ou même d'arbres et de digues pour que les premiers fleurissent et que tous deux restent solides. Monsieur Lowe était le seul chrétien de la région, et ses voisins furent touchés d'apprendre qu'il priait pour eux. Mais comme il était un peu simple d'esprit, ils pensèrent qu'il avait un petit grain de folie aussi. Puis un jour, Monsieur Lowe mourut subitement d'une crise cardiaque à 51 ans seulement. Il n'avait pas de famille. Les choses se mirent à aller mal dans la région. Une explosion tua 4 personnes dans la carrière. Une jeune femme perdit un bras dans une machine à la verrerie. Le buffle d'un paysan s'emballa et détruisit sur son passage des murs d'irrigation importants, causant la perte de précieuses récoltes. Il se produisit au total tant de malheurs que tous les villageois se réunirent et se dirent « Ces misères nous arrivent parce que l'eau n'est plus là pour prier pour nous. » Nous savons par nos enfants que tant qu'ils priaient, il n'arrivait de mal à personne et les récoltes étaient abondantes. Ils discutèrent jusque tard dans la nuit et décidèrent qu'il fallait trouver à quel Dieu M. Lowe adressait ses prières. Ils regrettèrent de ne pas s'être intéressés à la foi de M. Lhôte, son vivant, mais il était désormais trop tard. Pour tenter de trouver la réponse à leurs questions, ils brûlèrent des bâtonnets d'encens dans l'oratoire païen du village où se trouvait la statue de pierre d'un guerrier des temps passés. À leur grande surprise, la statue tomba pendant la nuit. Cela dura une semaine. Chaque matin, ils retrouvaient leur statue le nez dans la boue. Finalement, quelqu'un eut une idée. « Regardez, le dieu tombe toujours dans une direction précise. » Effectivement, la tête de la statue pointait exactement vers la maison où avait vécu M. Lhôte. Ils se rendirent à la maison, qu'habitait maintenant une autre famille, et ils cherchèrent partout. Après un long moment, quelqu'un cria « J'ai trouvé quelque chose !» Et il tira sous le toit un petit livre. Ils prirent le livre, allèrent le déposer devant leur dieu, puis ils allumèrent d'autres bâtonnets d'encens pour voir ce qui allait éventuellement se passer. L'après-midi même, un jeune évangéliste arriva dans le village. Il se mit à prêcher aux habitants qui travaillaient dans les champs. « J'aimerais vous parler de Jésus-Christ, frère !» Mais il ne put rien dire de plus, car déjà quelques hommes se précipitaient sur lui, l'empoignant par les bras et les jambes. Ils l'emmenèrent en disant « On va t'apprendre à venir ici avec tes superstitions !» Mais en passant devant l'oratoire, ils entendirent un gros bruit sourd suivi d'un gémissement. Ils lâchèrent aussitôt l'évangéliste pour aller voir à l'intérieur. La statue était tombée de nouveau, et une jeune femme avait eu la jambe coincée dessous. Les hommes s'affairèrent à la dégager, et pendant ce temps, l'évangéliste se releva, vint voir ce qui s'était passé. Il se fraya un passage jusqu'à la statue et s'exclama « Mais c'est une Bible! Où l'avez-vous trouvée ?» Les villageois le regardèrent ébahis, pendant qu'il prenait le livre qui était tombé à terre. « Tu connais ce livre ?» lui demandèrent-ils. « Mais bien sûr, c'est le livre qui parle de Jésus-Christ, le Dieu le plus grand, celui qui répond aux prières comme aucun autre. » L'évangéliste n'aurait pas pu prononcer parole plus douce aux oreilles de ses interlocuteurs. « Ah, on comprend, » dirent-ils. « Celui qui possédait ce livre était un homme du village. On le prenait pour un idiot, mais on a vu ensuite que ses prières étaient puissantes. Parle-nous de son Dieu !» L'évangéliste essuya ses vêtements d'un revers de la main et, s'apprêtant à parler, il regarda la Bible qu'il avait ramassée. Il avait placé son pouce à la page où le livre s'était ouvert en tombant. Ce fut à son tour d'être stupéfait. Il s'agissait justement de 1 Samuel 5, le passage où le dieu des Philistins, Dagon, tombe face contre terre devant l'arche de l'Éternel. « Je n'ai jamais vu un texte si passionnant », racontait-il plus tard avec un large sourire. Maintenant, les villageois sont tous chrétiens. Et ils ajoutent, « Nous avons remarqué une amélioration de nos récoltes et nous avons de nouveau moins d'accidents. » Détail touchant, l'héritage de M. Lhôte se perpétue. Chaque soir, au crépuscule, on voit 10 à 15 villageois sur les digues. Un bras tendu, la paume de la main relevée, les doigts écartés, ils murmurent leurs prières tout en tournant lentement sur eux-mêmes, et chacun, en l'honneur de M. Lhôte, porte une roue sur l'épaule. Alors, simplement, en terminant, cette histoire des premiers convertis au christianisme dans une région d'Afrique, très très diligents quant à la prière. Et chacun d'entre eux avait son endroit personnel à l'extérieur du village où ils allaient prier dans la solitude. Et les villageois avaient décidé de se rendre donc à ces chambres de prière en utilisant leur propre sentier privé dans les buissons. Quand l'herbe commençait à pousser sur un de ces sentiers, il était évident que la personne à qui appartenait ce sentier ne priait plus beaucoup. Étant donné que ces nouveaux chrétiens se souciaient du bien-être spirituel les uns des autres, une coutume unique se développa. chaque fois que quelqu'un remarquait un sentier de prière qui était envahi par l'herbe, il allait trouver son usager et l'avertissait avec amour en disant « Mon ami, il y a de l'herbe sur ton sentier. » Peut-être, Dieu dit-il à certains d'entre nous, que ce soit ici dans cette salle, que ce soit à travers l'écoute de la cassette, « Mon ami, mon enfant, il y a de l'herbe sur ton sentier. » Et notre prière, c'est que nous nous mettions au travail avec la tondeuse pour développer cet endroit de la prière.